chronique d'un autostoppeur. Mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Une émission mensuelle dépaysante proposée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Il vous emmène dans son périple de 15 mois, réalisé de février 2019 à mai 2020.
Salut les aventuriers et bienvenue dans ce 9e épisode. Ensemble, nous allons parcourir 2500 km en autostop au Pérou. Dans la première partie de l'émission, nous nous déplacerons de Lima à Cusco, puis nous poursuivrons la route jusqu'à la frontière chilienne. Lorsque j'atterris dans la capitale péruvienne, dans la soirée du 15 octobre 2019, j'ai de la chance d'être accueilli par Pedro. C'est le beau-père de mon ami Eddie, que j'ai vu un mois plus tôt en République dominicaine. Quand on arrive de nuit dans une ville étrangère de plus de 10 millions d'habitants, c'est vraiment confortable d'être pris en charge. Pedro me ramène chez lui et son épouse Olga. Ils vont m'héberger quelques jours. Seul ou en compagnie de ma sympathique famille d'accueil, je visite cette ville chargée d'histoire. Je découvre les imposantes pyramides de la civilisation Wari, bâties entre l'an 800 et 1000. Je passe devant la maison où a logé le conquistador Pizarro dans la première moitié du XVIe siècle, mais également celle où a été déclarée l'indépendance du pays en 1821. Lorsque le moment est venu de repartir de cette mégalopole, Pedro me conduit sur la route du sud. Là, je cherche un covoiturage muni d'un panneau sur lequel j'ai marqué le nom de la ville de Nazca. Un couple me fait avancer de 120 km. L'endroit où Juan et Maybi me déposent ne semble pas leur convenir pour lever le pouce. Ils me proposent de prendre le bus. Je décline en les remerciant et leur assure que j'ai le temps de trouver un covoiturage. Alors que je sors mon sac de la voiture, mon chauffeur est déjà en train de m'acheter un billet de bus. Je le rejoins pour le rembourser et il refuse tout net. Le couple est ravi de participer ainsi à mon aventure. Pas le temps de discuter, le bus part. Je roule paisiblement, touché par la bienveillance spontanée de ce couple au grand cœur. Je me retrouve à Nazca. Cette ville est très réputée en raison de ses lignes qui représentent des animaux stylisés observables en avion. Découverts en 1927, ces géoglyphes ont été réalisés par les Nazca, une civilisation pré-Inca du premier millénaire avant notre ère. Pour aller à Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, j'ai 650 km à parcourir en haute montagne, entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Il me faut 2 jours pour parcourir cette distance parce que les véhicules roulent entre 30 et 50 km/h. Je fais du scooter stop, du minibus stop, du camion stop et de l'autostop. On roule à flanc de montagne. Il y a peu de glissières de sécurité. Fréquemment, des croix bordent la chaussée en souvenir de toutes les personnes ayant chuté dans le vide. Ici, les sorties de route sont fatales. Lorsque la pause déjeuner arrive, j'invite mon chauffeur à manger dans un restaurant. C'est ma façon de le remercier pour son aide généreuse. La nuit venue, je fais du camping sauvage dans un pré. À Cusco, je suis logé chez Marcin, un ami polonais de mon pote Eddie. Il me guide à travers les rues de cette magnifique ville fondée au XIIe siècle. Les marchés en plein air provoquent un véritable dépaysement, tant par les produits originaux qui y sont proposés qu'en raison des tenues colorées des Péruviens. Dans certaines rues, on peut encore admirer les murs incas originels. Cusco a été partiellement détruite par les conquistadors espagnols en 1534. Ces derniers ont ensuite construit de nombreux édifices à leur goût, notamment la majestueuse cathédrale. C'est la découverte du Machu Picchu en 1911 qui a lancé l'essor touristique de la ville.
Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or.
Je me rends au Machu Picchu, une cité du 15e siècle dont le nom signifie « vieille montagne » en quechua. Cette visite se mérite. Il faut grimper 400 mètres de dénivelé sur 1600 mètres pour découvrir le site qui s'élève à 2400 mètres d'altitude. Il est néanmoins possible de prendre un bus hors de prix pour gravir cet obstacle naturel. Je débute l'ascension à 6 heures du matin. Je suis émerveillé devant l'époustouflant panorama. Temples, habitations, terrasses, aqueducs. Je passe 4 heures à explorer ce complexe unique construit sous le règne de l'empereur Pachacutec vers 1440. Ici et là, je rencontre des lamas pas du tout farouches. À l'époque, la population du Machu Picchu variait entre 300 et 1000 habitants, appartenant probablement à une élite religieuse et politique. Abandonnée à l'effondrement de l'Empire Inca, la cité a été redécouverte par un Américain au début du XXe siècle. Son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983 a participé à son attrait touristique. Aujourd'hui, le site est visité par 4 à 6 000 personnes par jour, ce qui pose des problèmes de conservation. De retour à Cusco, j'ai l'occasion de voir à quel point la fête d'Halloween est célébrée au Pérou. J'avoue être surpris de constater le degré d'assimilation de cette tradition anglo-saxonne. J'ai l'impression que tout ce que la ville compte d'enfants est déguisé et se balade dans les rues à la recherche de bonbons. Je croise un mini Hulk et l'un de mes héros d'enfance, Seiya, le leader des chevaliers du Zodiaque. Le 1er novembre, je vais dans un cimetière pour voir comment les Péruviens rendent hommage à leurs morts. Ma première surprise est de découvrir des sépultures superposées. Il y a de rares caveaux, mais la majorité des tombes sont individuelles sous la forme de boxes en béton. Les proches utilisent des échelles pour nettoyer et décorer celles qui sont élevées. Dans le petit espace sous verre de chaque tombe, en façade, les familles déposent des photos des défunts, des fleurs, mais également des objets qu'ils appréciaient. Il n'est pas rare d'y voir des mini-bouteilles de bière ou de coca. Un groupe de musique joue dans le cimetière. Les familles en visite mangent et boivent devant la dernière demeure de leurs disparus, tout en pensant à eux.
olvido se llama. ¿Dónde van a consolarse, Vidalita, los moribundos de la... Para no pensar en vos, en el árbol del olvido, me acosté una nochecita, Vidalita, y me quedé bien dormida. Al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, Vidalita, en cuantito me acosté.
C'était El Árbol del Olvido de Lassa de Cela, une chanson que vous retrouverez sur son premier album, sorti en 1998. Vous écoutez Jérémy Fischer, chronique d'un autostoppeur, mon tour du monde en 15 x 15 minutes. Dans la seconde partie de l'émission, nous allons nous diriger vers le Chili. En quittant Cusco, je me dirige vers le sud. Mes conducteurs me proposent de goûter des feuilles de coca. Leur usage remonte à près de 5000 ans. J'accepte cette initiation, sachant que cette plante est sacrée pour de nombreux peuples amérindiens en raison de ses différentes vertus. Il s'agit de les mâchouiller. Elles sont préconisées, entre autres, pour contrer les effets de l'altitude sur l'organisme. Je continue mon périple vers le sud. Au bord des chaussées, dans la montagne, je peux apercevoir des alpagas. Ces mammifères ressemblent aux lamas, mais ils ont un cou et des oreilles plus petits. Je me rends au canyon de Colca. Deux fois et demi plus profond que le Grand Canyon des États-Unis, il a longtemps été considéré comme le plus imposant canyon au monde. Mais récemment, il a été recalé en deuxième place derrière le canyon de Cotahuasi, plus profond d'environ 130 mètres. Le canyon de Colca n'en demeure pas moins très impressionnant. C'est un endroit réputé pour observer le vol du condor, un oiseau de proie devenu le symbole national du Pérou. La vue est incroyablement magique. Je suis seul, posé sur une roche d'où j'observe l'immensité du canyon à l'affût. Je vois de petits volatiles, mais pas de condor à l'horizon. Comme pour l'autostop, je sais me montrer patient. 50 minutes plus tard, un condor apparaît comme dans un songe, 100 mètres plus bas. Je n'ai que quelques secondes pour admirer son vol plané avant qu'il ne disparaisse derrière les aspérités de la falaise. Je repars en stop vers Arequipa. La deuxième plus grande ville du Pérou est entourée de trois volcans. Depuis 2000, son centre historique est inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Je passe une soirée à écouter des groupes de rock jouer dans un petit club. Je sympathise avec deux jeunes fans d'un groupe de punk rock péruvien appelé Aeroparitas.
Estoy junto a un montón de...
Mon objectif est de me diriger vers le lac Titicaca. Pour la journée, je prévois de parcourir 270 km jusqu'à la ville de Juliaca. Je lève le pouce. Hector et son fils Sébastien m'invitent à monter dans leur véhicule. Ils se rendent à Yura. J'apprends que c'est une station thermale assez connue. Les eaux chaudes et sulfuriques issues des volcans alentour procurent des bienfaits thérapeutiques. Hector travaille dans un hôtel de Yura. Je décide de marquer une pause pour découvrir les thermes. Père et fils sont heureux de m'y accompagner. Après notre baignade, ils m'invitent à déjeuner avec leur famille. Au moment de me poster au bord de la route afin de trouver un covoiturage, Hector m'apprend qu'un groupe d'adventistes descendus à l'hôtel va bientôt repartir en bus pour Juliaca. Sur un ton complice, il me glisse « Peut-être qu'ils ont de la place pour toi ?» Mon nouvel ami demande au responsable du groupe s'ils peuvent m'emmener avec eux, et il accepte. Je suis ravi de cette opportunité. Merci Hector pour ce coup de pouce qui me permet d'atteindre Juliaca à la nuit tombée. Mon expérience du jour est une nouvelle illustration du fait que laisser entrer de l'inattendu et de la spontanéité dans l'aventure n'empêche pas d'atteindre ses objectifs de distance et peut permettre au voyage de s'enrichir. J'ai à nouveau de quoi m'endormir avec un fort sentiment de gratitude. Le lendemain, je repars vers Puno. Selon la tradition, Puno est le berceau de la civilisation Inca. En effet, le premier d'entre eux, Manco Capac, serait sorti des eaux du lac Titicaca sur les ordres du dieu soleil pour fonder l'empire Inca. Titicaca est le plus grand lac d'Amérique du Sud en volume d'eau et en longueur. Situé à 3812 mètres d'altitude, il est aussi considéré comme le plus haut lac navigable du monde. De Puno, mon intention est de me rendre en Bolivie. Mais la situation politique et sociale est très tendue. Les échos que j'ai d'autres voyageurs qui s'y trouvent me décident, à regret, de faire l'impasse sur ce pays. Explorer le monde, c'est aussi s'adapter aux situations particulières et à l'actualité. Je décide de me rendre en Argentine en passant par le nord du Chili. Il me reste 400 km à parcourir sur le sol péruvien. J'ai l'occasion de faire du stop dans un minibus bondé, un camion et même un taxi. La nuit, je fais du camping sauvage dans ma tente canadienne. Je continue vers le Chili et traverse un paysage désertique entouré de magnifiques montagnes multicolores jusqu'à la ville de Tacna. Le lendemain, je lève le pouce et parcours les 30 km qui me séparent de la frontière avec le pays voisin. Ce mois passé au Pérou m'a amené à découvrir un pays fascinant et à rencontrer des Péruviens amicaux et bienveillants. Dans le prochain épisode, je vous propose de vous emmener en exploration au nord du Chili et de l'Argentine. En attendant, portez-vous bien et levez le pouce.
Vous avez écouté Chronique d'un autostoppeur, mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Émission de voyage présentée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Pour commander son livre « Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde » ou prendre connaissance de ses services de conférencier ou d'accompagnement pour l'écriture de votre récit de vie, rendez-vous sur www.desracinesalapage.fr et sur sa page Facebook « Des racines à la page ». Retrouvez tous les épisodes de cette émission en réécoute sur radio-calade.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures.